Let's kill all the lawyers.
Les in et les off de Droite en scène, saison 5, par Emmanuel Saulnier-Cassia. Pour cette deuxième émission de la cinquième saison des in et des off de Droite en scène, en complément du premier consacré à la justice sollicitée, j'ai choisi d'inviter Fabio Alessandrini à l'occasion de sa présentation dans le off du Festival d'Avignon de son spectacle Un juge à Présence Pasteur tous les jours à 16h15. Bonjour Fabio Alessandrini.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmanuel.
Fabio Alessandrini, vous êtes auteur, metteur en scène, comédien et italien. Vous avez été formé à l'école d'art dramatique du Teatro Stabile de Gênes en Italie. Vous avez étudié entre autres le clown avec Marcello Bartoli et Alessandra Garone, la commedia dell'arte avec Carlo Bozzo et j'en passe. Vous avez joué dans ce même théâtre, Stabile, et dans bien d'autres endroits. Mais surtout en 2000, vous avez créé votre compagnie, la compagnie Teatro di Fabio. Je vous ai invité dans les in et les off de Droite en scène, l'émission spéciale Avignon de Droite en scène, parce que vous présentez, dans le cadre de son festival off, un juge que l'on peut qualifier de votre spectacle phare. En tout cas, moi, c'est un spectacle que j'ai vu 3 fois et vraiment aimé de fois en fois. Cette pièce que vous avez écrite, mise en scène et que vous jouez seule en scène, a été créée en 2022 au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Vous la présentez ici à Avignon, à Présence Pasteur, sur toute la durée du festival. Et là, vous venez tout juste d'en sortir et de jouer à guichet fermé. Dans mes émissions précédentes de Droite en scène, j'avais pour habitude de poser à mes invités une question rituelle. Qu'est-ce que le droit pour vous ? Mais à vous, j'ai envie de faire écouter aux auditeurs la question que vous posez immédiatement au public et vous demander d'y répondre.
Quelle est la différence entre la loi et la justice ?
Alors, Fabio Alessandrini, quelle est la différence pour vous entre la loi et la justice ?
Est-ce que j'ai le droit d'aller en répondre ? La différence entre loi et justice. Pour moi, la loi est l'ensemble des règles, l'ensemble des règles qui nous permettent de vivre ensemble, de partager l'espace, le temps, les sentiments. Et la justice est quelque chose de plus abstrait peut-être, ou je ne sais pas si c'est plus abstrait, mais c'est quand même un mythe, c'est une valeur, c'est quelque chose qui nous accompagne, c'est un sentiment aussi, la justice comme l'injustice, le sentiment de justice et d'injustice que nous avons depuis l'enfance même. Quand on est enfant, on a déjà... Et ça nous accompagne pendant toute notre vie, et c'est très subjectif, donc c'est un peu comme la vérité. On a l'impression que c'est injuste ou c'est juste selon nos paramètres à nous, alors que la loi est objective. Elle est là pour nous permettre justement de ne pas se faire prendre par les sentiments. Et je pense notamment aux juges qui disent je m'accroche au droit, je m'accroche au code pour ne pas me faire avoir par des sentiments.
Alors nous pouvons peut-être prolonger la question pour... entrer tout doucement dans ce spectacle. Moi, je m'interroge, je me suis interrogée d'emblée sur cette passion apparemment évidente pour le droit et la justice en particulier, en tout cas qui transparaît dans le spectacle. D'où vous vient cette passion ?
Cette passion, elle a grandi avec moi. Et la première pièce que j'ai jouée dans mes débuts, c'était Prométhée de Schiller. Donc, c'était déjà un personnage qui avait affaire avec la justice et l'injustice. Je crois que ça m'a parlé énormément et ça m'a donné envie d'aller chercher plus loin en moi et dans le monde entier, dans les autres, où se place la justice dans notre société, dans notre présent, comme elle était dans notre passé d'ailleurs. Et ça m'a accompagné. Et à un moment donné, la documentation a augmenté, et il y avait matière pour enfin transformer, métaboliser tout ça et faire devenir théâtre ces idées, les récits des magistrats que j'ai entendus, notamment le livre de Ferdinando Imposimato, un magistrat italien qui a combattu la mafia et aussi d'autres formes de crimes organisés, et qui a travaillé notamment avec Falcone Borsellino, et qui a écrit un livre qui a été censuré en Italie et qui a été édité en France par un petit éditeur. Et quand je suis arrivé en 2000, j'ai trouvé ce livre devant moi. Athéna me l'a proposé peut-être, je ne savais pas. Et ça a été très très fort et très émouvant de le lire. Et ça m'a donné envie de continuer.
Et c'est vraiment cet ouvrage qui a déclenché l'écriture d'un juge ?
Oui, on peut dire que oui. J'étais peut-être déjà sensible à certaines choses. J'avais commencé la fac de droit, je l'avoue. Mais j'avais commencé le théâtre en même temps et le droit a perdu le match contre le théâtre à la première année. Ça a été tout de suite une victoire écrasante du théâtre. Mais mine de rien, le droit avait fait coucou dans ma vie et ce livre a été le déclencheur. Après, j'ai entendu, j'ai lu beaucoup d'autres récits d'avocats aussi, personnel de justice, différentes catégories, et ça enrichit énormément ma connaissance, des choses que je trouvais surprenantes pour moi. Le théâtre, c'est ça aussi pour moi. Chaque spectacle, c'est l'occasion pour apprendre plein de choses. Que ce soit un spectacle sur les sciences, ou un spectacle sur le dopage dans le football, un spectacle sur d'autres thèmes. C'est toujours quelque chose lié à notre société, à des thèmes de notre société. La justice est là. Aujourd'hui, encore plus, j'ai l'impression que tout le monde a soif de justice, a besoin de ce dialogue avec Athéna.
Alors, pour que les auditeurs commencent à se faire une idée de la couleur de votre spectacle, nous allons écouter un premier extrait.
Allô ? Allô, bonjour. Oui, c'est moi. Oui, je viens d'arriver. Ah, merci. Ça doit être la place principale, parce qu'il y a l'église, il y a une terrasse de café, oui. Ah, attendez, il y a les rigoles. Café de la place, oui. Alors maintenant, vous buvez votre café, vous vous levez, vous réglez. Surtout, vous ne parlez à personne. Et vous vous éloignez très discrètement. Faites comme je vous dis. Je vous attends au palais de justice. Combien je vous dois ? C'est offert par la maison, monsieur le juge.
Nous venons d'entendre ce deuxième extrait. Nous sommes en compagnie donc d'un juge en Italie, dont on ne connaîtra jamais son nom, qui est tout juste sorti de ses études de droit, de ce concours de la magistrature, et il arrive à sa première affectation. Comment avez-vous conçu ce personnage, cette figure ? Est-ce que vous avez voulu en faire un archétype ? On va évidemment développer sur son parcours, mais vous ne le concevez ni comme un héros, ni comme un super-héros, ni comme un salaud, comme on le verra par la suite. Qu'est-ce que représente ce personnage pour vous quand vous l'écrivez ?
Alors, il y avait tellement de matière, tellement d'histoires, soit-elles drôles ou tragiques, alors je parle de nous parce que j'ai écrit en collaboration avec un collègue, Riccardo Maranzana, que je remercie, et nous avons décidé d'inventer un juge factice qui n'existe pas, mais qui est traversé par plein d'expériences de plusieurs juges réellement existants ou existés, et donc sa vie est un concentré incroyable d'événements et d'expériences qui pourrait affaiblir même les âmes et les esprits les plus forts. Mais il traverse tout ça. Et à la question comment on a conçu ce personnage, Justement, on n'avait pas envie de créer un super-héros imbattable ou un symbole de protection pour la société tout entière. On avait envie de créer un être humain vulnérable qui se sent seul, qui est parfois écrasé par la lourdeur du jugement et par les pressions qu'il reçoit, que ce soit du crime organisé ou même du pouvoir. Donc, un être humain, et ça permet au spectateur de s'identifier beaucoup plus facilement et de faire un travail, un parcours de découverte, d'évolution, de prise de conscience de plein de choses qui se passent pendant le spectacle, au même titre que le personnage. Le personnage part, comme vous disiez, de l'insouciance de la fac. Il ne sait même pas pourquoi il se retrouve à être juge. Et il le découvrira bientôt. Il le découvrira sur le terrain à cause d'expériences très troublantes. Et c'est là qu'il commencera à prendre réellement conscience de sa mission, de son engagement, et qu'il embrassera cette voie avec beaucoup, beaucoup de passion.
Mais avant même d'en venir à finalement cette première scène, il faut peut-être parler quand même du prologue de la pièce qui va nous permettre de parler aussi de l'humour que vous distillez tout au long de votre spectacle. C'est très important parce que vous traitez de choses difficiles, graves, mais qui passent de manière extrêmement magique et subtile. Le public est maintenu en haleine en permanence et on lui offre des respirations. Et dès le début, en réalité, dans une scène qui pourrait être une scène de rupture, mais qui est étonnante dès le départ, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Parce que c'est une scène qu'on peut lire à diverses échelles, comme un véritable cas pratique pour des étudiants en droit, ça c'est la première lecture possible, ou comme une métaphore à ce que l'on connaît comme étant la loi des repentis en Italie, cette loi adoptée en 1979 pour lutter contre le terrorisme et qui a permis de faire bénéficier d'une protection les repentis accusés ou condamnés, notamment pour association mafieuse, on en reparlera, et qui s'engagent à collaborer avec la justice. Donc, pouvez-vous nous raconter vous-même ce prologue à ce scénario tragicomique qui aboutit finalement à démontrer l'étrangeté de certains syllogismes juridiques qui reposent sur la réalité des apories ou des contradictions du droit pénal italien ?
Déjà, l'envie était de mettre une toute petite surprise pour le spectateur qui s'attend à rencontrer tout de suite un juge qui lui raconte sa vie. Alors que non, on a quelqu'un qui arrive et qui, on ne sait pas si c'est un juge, un avocat, on ne sait pas. Il parle comme s'il parlait à des collègues et il raconte ce paradoxe juridique, cette solution stratégique pour... Il propose des solutions pour éliminer son conjoint ou sa conjointe sans écoper des jours de prison. Et il se base sur le droit, il se base sur des lois existantes, ou plutôt qui ont existé en Italie jusqu'à il y a quelques années. C'est ça qui est étonnant. On est à Avignon, oui. Et le public apprécie beaucoup cette petite surprise initiale et qui met l'accent justement sur le paradoxe et sur le comique. Parce que peut-être parce que je viens de la comédie à l'italienne, j'ai toujours aimé ce mélange intéressant entre tragique et comique. On ne sait jamais si on doit pleurer ou rire de certaines choses. Et dans le spectacle, ce mélange est présent, bien présent. Et la première partie, on est un témoignage bien, bien fort.
Effectivement, il est très présent, notamment dans une scène où on est à Palerme, là, cette fois, après une mutation. On arrive dans le bureau, c'est une assez longue scène, mais vraiment où on rit beaucoup. Le ventilo ne marche pas, les ramettes de papier disparaissent, les toilettes sont inondées, les micros sont sabotés avant l'audience. On rit beaucoup, mais ça nous permet de nous faire avaler les passages les plus durs de violences individuelles et collectives. Par exemple, le cas que vous indiquez de l'inceste et de la séquestration, bon, qui est un cas fictif, mais qui évidemment se base sur des dossiers que vous avez pu consulter. Et puis aussi au niveau collectif, tous les crimes liés à la mafia. Mafia qui est au cœur du spectacle et qui est évoquée à plusieurs reprises, notamment dans un attentat ou une manquée et dans la peur constante de ce juge qui évoque donc des grandes figures que vous avez commencé déjà à citer, en particulier les juges Falcone et Borsellino. Vous avez beaucoup travaillé, j'imagine, sur ces personnalités, sur leur biographie. Qu'est-ce que vous en avez tiré de ces lectures ?
J'ai tiré la certitude de ces personnes de mourir. Ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. Donc ils ont essayé de faire au mieux, de faire au maximum leur travail. Et ils se posaient des questions que je trouve incroyables, parce que même dans l'École nationale des magistrats, les juges m'ont raconté qu'on commence à s'entraîner à cette hypothèse d'une mort un peu plus prématurée. Et on commence à faire avec. Mais là, Falcone et Borsellino, ils se parlaient entre eux, ils écrivaient ça, ils disaient ça. On sait très bien qu'on mourra, donc il faut faire le maximum. J'ai retenu aussi un engagement profond des deux, la peur, la force, donc, parce que la peur provoque de la force, du courage même. Et peut-être, ça, c'est de l'héroïsme, oui, de l'héroïsme. Et non seulement dans Falcone et Borsellino, mais dans beaucoup de juges qui ont lutté ou qui luttent contre le crime organisé, il y a de plus en plus l'impression d'être un peu abandonné, un peu seul, entre un État qui ne les protège pas et un crime organisé qui prend de plus en plus d'ampleur et de place dans les postes de pouvoir. Et ils se disent, mais pourquoi je fais ça ? Et pourtant, ils avancent parce qu'ils ont des valeurs, ils ont des idées, ils ont une vision du monde, de la société dans laquelle on voudrait vivre. Et ça, moi, ça me donne beaucoup d'émotions.
Et ce que vous dites est très intéressant dans les parallèles et dans les miroirs entre le peuple et les juges. Parce que finalement, la mafia agit par la peur, mais contre tout le monde, à la fois la population, qu'elle ne protège plus ou qu'elle protège contre, évidemment, une contrepartie, le silence que ça engendre, aussi bien dans la population que dans la magistrature. Vous interrogez à un moment en disant, mais contre qui est ce silence ? Contre le pouvoir ? Contre qui ? Et vous dites aussi, vous n'êtes pas complice, hein, enfin le juge dit au peuple, vous n'êtes pas complice, vous êtes soumis, ce silence est votre tombeau. Mais en même temps, vous n'êtes jamais donneur de leçons, parce que vous finissez ce paragraphe où on a l'impression d'une forme d'accusation ou de jugement, et en fait vous finissez de manière très surprenante d'emblée et en même temps très fine évidemment, si j'étais vous, je ferais comme vous. Faites-vous dire au juge. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Comment avez-vous travaillé cet équilibre qui n'est pas facile à trouver ?
Parce que je me suis souvenu de plein de réflexions de personnes, notamment du nord d'Italie. Et moi, j'en faisais partie dans ma jeunesse. On se dit, mais pourquoi on n'envoie pas l'armée là-bas ? Pourquoi on ne fait pas quelque chose de fort pour arrêter ce phénomène. Il y aurait bien une solution pour l'arrêter. Et on aurait dit que tout était le destin, le fato, non, le fatus, je ne sais pas comment on dit en français, fatus.
Fatum.
Ah oui, parce que...
Fatum.
Et donc, beaucoup de monde le dit encore aujourd'hui. Et ce sont des personnes qui n'ont jamais mis le pied dans le Sud. Et je ne sais pas comment je réagirais si quotidiennement quelqu'un venait dans mon magasin me proposer des services ou de la protection, mais si je refuse, je me retrouve le magasin brûlé la première fois, la maison brûlée la deuxième fois. Je veux dire, c'est très dur, c'est très difficile de résister à ce phénomène. Des personnes très gentilles et très élégantes qui peuvent devenir terribles, qui peuvent devenir d'une violence inouïe. Donc, c'est pour ça que mon juge, à la fin, on a fait ce résumé, se concentrer dans cette situation au café. Il parle aux gens qui le regardent avec méfiance et après, il se rend compte que finalement, il n'a pas de leçon à donner. Il vient de comprendre qu'il ferait pareil.
C'est humain. Et notamment, il comprend aussi, dans le même esprit, le décalage entre la réalité et la pratique. Il subit en quelque sorte même ce décalage. Je vous propose d'écouter un autre extrait où le juge arrive à sa première affectation. Donc on fait un petit retour en arrière à Locri. Il a à peine posé le pied dans le village qu'il doit se rendre sur les lieux d'un double assassinat. Où il découvre, après avoir révisé en route, alors dans une très jolie scène de voiture, son cours de technique d'enquête, bah, qu'il n'y a notamment pas de police scientifique dans ce coin de l'Italie, et que bah, finalement, à côté des manuels théoriques, l'apprentissage de la visite à la morgue, de la rencontre avec les familles, des victimes, et l'obligation dans laquelle il s'avère, faute de preuves, de classer l'affaire sans suite, le désarçonne. Alors, on va écouter cet extrait.
Chers parents des deux victimes, vous avez décidé de me faire confiance pendant ces 18 mois d'une enquête délicate. Vous avez patiemment attendu que je détermine la vérité, que je punisse les responsables et que justice soit faite. J'ai échoué. Je n'ai aucun élément pour émettre un mandat d'arrestation contre ces personnes dont on connaît très bien l'identité et l'implication dans les faits, et qui en ce moment se trouvent tout près d'ici, au café. Aucune preuve contre eux. Le code à la main, je me vois contraint de classer ce dossier sans suite. Votre douleur ne sera pas apaisée. Justice ne sera pas faite. C'est ce que je devrais leur dire. Et le pire est que je commence à m'habituer. Je m'habitue au meurtre, au vic sous le nez. Je m'habitue à perdre.
Alors, dans la suite aussi de cet extrait et de cette découverte du décalage entre la réalité et la pratique, c'est aussi le sentiment d'échec, de lassitude, dû aussi à l'impact sur la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose que vous arrivez là aussi à très bien traduire de manière très, très, très sensible, aussi bien dans les mots que dans la gestuelle que vous utilisez dans le spectacle. Ce sentiment très individuel et humain d'avoir envie de baisser les bras, d'être écrasé par le poids à la fois des responsabilités et d'une sorte d'impasse dans laquelle le juge se trouve en permanence. Et ça, je trouve que dans cet hommage finalement que vous rendez vraiment au juge et à cette vocation, c'est quelque chose auquel les intéressés doivent être très sensibles. Vous voulez nous indiquer comment vous l'avez travaillé ?
Oui, on a travaillé. Il y a une phrase d'Eschyle dans l'Antigone, quand Hémon, le jeune Hémon, le fils de Créon, parle à son père pour le convaincre à ne pas agir contre Antigone. Et il dit, mais il prend une métaphore très simple. Il dit, mais regarde les arbres qui sont sur le fleuve, ceux qui s'opposent sont cassés par la force de l'eau, mais ceux qui sont souples, qui acceptent, résistent avec toutes les racines. Donc, c'est une petite métaphore que j'ai toujours aimée, et je trouvais plutôt juste cette image pour ces juges, parce que, comme vous disiez du passage de la théorie à la pratique, la réalité du terrain oblige ces personnes à abandonner justement une théorie abstraite et complètement éloignée de la réalité. Et en même temps, il faut apprendre à perdre. Il faut apprendre à ne pas prétendre de gagner à chaque coup, parce que c'est impossible. Au contraire, plus vite on apprend à perdre, plus vite on accepte la situation, la difficulté, et plus vite donc la souplesse de l'arbre, et plus vite on pourra connaître mieux l'ennemi, connaître mieux la situation. C'était hélas les catholiques, non, qui disaient dans l'Amérique latine pendant la conquête du Mexique, ils disaient, mais non, il ne faut pas détruire, il faut bien connaître, parce qu'en connaissant, mieux on connaît, mieux on pourra détruire après. Ça, c'était encore plus terrible. Mais là, c'est pour une bonne cause. C'est connaître un phénomène pour pouvoir l'éradiquer. Et c'est d'ailleurs ce que Falcone a fait. Falcone est le premier qui a réussi justement à accepter le fiasco, comme un artiste accepte le fiasco. Même nous, on s'oppose sur scène à l'idée de ne pas réussir. Eh bien non, il faut accepter que le spectateur ne trouve pas son compte, qu'il s'endort. Disons que les enjeux sont un peu différents, mais l'acceptation de l'échec est fondamentale, je crois, dans la vie.
Je rassure les auditeurs, c'est tout le contraire qui se passe dans les scènes où vous produisez et où vous jouez un juge. Mais pour autant, en dépit de ce niveau aussi très pratique, très quotidien, très humain, vous n'oubliez pour autant pas les grands concepts qui sont chers aux juristes, les grandes théories autour notamment de la notion de démocratie. On peut écouter peut-être encore un petit extrait où on a le ministre qui vient parler au juge qu'il promeut par une mutation à Bogota. Donc après Locri et Palerme, le juge est envoyé à Bogota dans un groupe international de magistrats experts dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et voilà ce que le ministre assène.
Certains, votre douleur, je vous l'ai dit, est notre douleur. Votre colère est notre colère. Je peux tout à fait comprendre le désarroi qui vous pousse en ce moment à douter de votre mission et du sens même de votre engagement au service d'une valeur fondatrice de notre pays, la démocratie. Mais croyez-moi, cette démocratie ne peut se passer de l'intégrité, de la compétence, de l'expérience d'hommes comme vous. Je me vois contraint de refuser votre démission.
Alors, ce ministre Fabio Alessandrini, qui est une figure là en décalage assez grand avec notre juge, comment l'avez-vous imaginé ?
Je l'ai imaginé malheureusement de façon très concrète, parce que ce sont des figures réelles qui ont existé, qui existent. Mais là, dans ce cas, c'était un ministre qui a réellement existé en Italie et qui a eu cette attitude envers un juge, qui a eu la promotion, donc il a obtenu une très belle promotion, parce qu'il avait rendu des services à l'État, et ces services sont allés un peu trop loin. Donc quand le pouvoir se sent menacé par un fonctionnaire qui est dans la qualité, dans l'exigence de son travail, eh bien il lui donne une promotion et il l'envoie dans des situations très compliquées, très difficiles, en espérant qu'il ne reviendra plus. C'est ce qui s'est passé pour ce juge, qui est revenu d'ailleurs lui, même s'il a perdu des personnes chères dans cette expérience. Et le ministre est le résumé, si vous voulez, une sorte de figure symbolique de résumé du pouvoir en général. Donc on a essayé de concentrer dans cette partie la position du pouvoir à l'égard de certains fonctionnaires de qualité.
Dont ce juge qui a une éthique, qui a des valeurs, qui a des vertus, si je reprends les mots d'Antoine Garapon, les vertus du juge, et que vous mettez remarquablement en valeur dans ce spectacle, qui est votre façon de souligner le dévouement des magistrats, leur investissement, leur passion pour leur métier. Et c'est vraiment... il faut vraiment insister là-dessus, parce que ce type d'hommage lors de spectacles qui sont consacrés à la justice est extrêmement rare, et on s'intéresse peu souvent à la figure du juge elle-même et de cette manière-là. Et peut-être qu'on peut citer une dernière phrase du spectacle, qui est en fait la dernière et qui résume tout. Alors plutôt que de passer un extrait de l'enregistrement qui a eu lieu au Théâtre de la Reine Blanche lors de la création de ce spectacle, qui sont les extraits que nous avons passés jusqu'à présent, peut-être que vous pouvez nous prononcer vous-même là directement, en direct d'Avignon, cette dernière phrase.
Oui, le juge... est en train de ranger les ruines des champs de bataille de la Seine, et il se pose des questions sur la peur, comment la peur, malgré la peur, on peut avancer, qu'est-ce qui nous pousse à avancer, et il dit mais peut-être parce que la justice est une obsession, une maladie, Et si c'est le cas, je crains que je ne me soignerai pas.
Alors c'est aussi une belle transition pour parler de vos projets, parce que vous n'êtes pas soigné du thème de la justice. On va vraiment parler de ce projet Envol Art et Justice avant de mettre un terme à l'émission. Nous avertissons les auditeurs que nous sommes en direct d'Avignon dans cet enregistrement et qu'il y a forcément toujours beaucoup de bruit autour et de sons divers. Ce projet Envol, qui est un projet d'immersion dans le milieu de la justice, où vous menez des entretiens avec des magistrats, des avocats, des personnels de tribunaux comme des greffiers, des paroles que vous restituez ensuite dans un travail d'improvisation. Qu'est-ce que vous avez comme objectif dans ce travail que vous avez entamé au tribunal de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France, je le précise, qui est présidé par Rosemarie Huneau, qui est arrivée à la tête de ce tribunal judiciaire en 2023 et qui est une magistrate, très investie et ouverte à l'art théâtral, ce qui donne encore plus de bonheur à ce type de projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette prolongation en quelque sorte de votre investissement dans ce milieu et dans ces questions?
Déjà, je remercie Madame Huneau pour son engagement et pour son investissement et pour avoir réussi à contaminer ses collègues, tous les magistrats, les greffiers, tout le personnel, le barreau. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que nous avions joué un juge dans le tribunal, après avoir joué dans le théâtre de Saint-Quentin, et quelque chose de merveilleux s'est passé entre le public, les magistrats et la compagnie, au point que l'année suivante, on a rejoué, et le tribunal avait envie de continuer, donc pas à travers le spectacle, et nous non plus. On avait envie de mettre le théâtre au service de quelque chose. On a donc rencontré, avec des entretiens, comme vous disiez, de tout le personnel du tribunal, toutes les catégories du personnel du tribunal. Et à la fin de la semaine, ces entretiens se sont transformés. Le tribunal a ouvert les portes au public, les magistrats et nous les avons accueillis. Et nous avons fait des improvisations, nous, les artistes de la compagnie, pas les magistrats. Nous avons fait des improvisations sur la base des entretiens, de ce qu'on nous avait raconté, des réflexions profondes et enrichissantes que nous avons reçues. 70% des choses étaient liées aux violences conjugales et aux violences sur les enfants, malheureusement, mais c'était la réalité de ce tribunal. Après, il y avait aussi d'autres choses. Et même cette fois-ci, nous avons réussi à conjuguer le comique et le tragique, parce que c'est important. Et ça a permis aux spectateurs d'accepter la dureté de certaines histoires. Tout était transformé en dialogue, en scène, mais improvisé. Donc c'était une sorte de sans-filet pour nous. Et c'était aussi pour les magistrats un moment très important de libération de la parole. Et ils nous ont remerciés, au moins autant que nous, mais c'est nous qui remercions les magistrats, et on va remercier aussi d'autres tribunaux, parce que ce projet se fera aussi à Dax, et aussi dans d'autres tribunaux de France, et nous sommes ravis de proposer ça à d'autres villes, à d'autres palais de justice.
Merci beaucoup Fabio Alessandrini, longue vie donc à ce projet Envol, longue vie aussi à un juge qui tourne déjà depuis un long moment, mais on espère que d'autres théâtres le programmeront à l'avenir, un spectacle d'utilité publique pourrait-on dire. C'était le second épisode de la saison 5 des In et des Off de Droite en Scène. J'ai donc reçu aujourd'hui Fabio Alessandrini pour son spectacle Un juge, qui se joue actuellement à Avignon dans le festival Off à Présence Pasteur. Toutes les précisions relatives à nos discussions dans l'émission figurent sur la page de présentation de Droite en Scène sur le site internet d'Amicus Radio. Merci à Léobardo Arango pour la coordination et la réalisation et à Cécile Hartz pour la diffusion. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de la saison 5 des In et des Off de Droite en Scène, qui sera consacré cette fois aux législateurs interpellés.